Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Initiative solidaire et citoyenne où nous allons partir dans l'invisible avec Jordan Vial. Bonjour Jordan.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Nous t'avons laissé lors de notre précédente émission au niveau de la délocalisation, de la décorporation plus exactement. Tu nous as expliqué que lors d'une EMI, tu pouvais voir ce qui se passait dans la tête des praticiens qui s'occupaient de toi. Et tu nous avais un peu marqué en nous disant que tu avais vu l'anesthésiste en particulier préoccupé par son assurance et l'assurance de l'hôpital au cas où tu viendrais à passer leur alarme à gauche, ce qui n'est pas arrivé heureusement. Et la surprise qu'il a eue lorsque tu lui as rappelé cet événement.
Oui, oui, oui.
Alors aujourd'hui,
je vais parler du début de la quête.
Ah, alors ça mérite une explication.
Ben, c'est-à-dire que je vais la donner là en vous expliquant que dans les EMI, en passant la porte de l'océan de lumière, et là je voudrais préciser que l'océan de lumière n'a rien à voir avec le tunnel de lumière. Quand on commence à partir dans le coma, on est pratiquement tous appelés à voir ce tunnel de lumière dans lequel on se sent appelé. Et le tunnel de lumière, c'est un départ et c'est comme une invitation à changer de plan fréquentiel. Et on y rentre ou on n'y rentre pas. Mais l'océan de lumière, je pourrais dire que ce n'est pas pareil du tout, puisque moi je considère qu'il se situe à la porte du champ, comme à un état frontière. On pourrait dire, est-ce que, et la question, je ne vais pas la poser aujourd'hui, mais est-ce qu'on pourrait sortir du champ ou pas? Est-ce qu'on arrive à cette limite du champ? Et l'océan de lumière, c'est cette limite. Mais limite ne veut rien dire, puisque le champ n'a pas de limite. Hein, donc c'est des mots pour en parler. Et dans cet océan de lumière, j'ai touché à la source du codage. Je vais essayer de m'expliquer. La configuration mémorielle de Marie-Hélène a été déstructurée au début du voyage dans le coma, quand la personnalité de surface s'est effondrée et a juste laissé le nœud lumineux de l'être, une forme de conscience. C'est cela qui a fait les voyages et les expériences dans le champ. À partir de là, une partie des informations, des mémoires anciennes, ont été dispersées dans les basses fréquences du champ, laissant place à un nouvel espace, comme une vacance, un état libre de recevoir une nouvelle configuration d'informations. Et cela a été possible justement parce que le nœud de l'être est repassé par la source du codage. J'émets l'hypothèse que nous passons tous par cette source du codage au moment de la naissance pour que se configure un amalgame d'informations autour du nœud de l'être. Cela se fait comme par une aimantation et ces informations sont, entre guillemets, comme piochées dans des strates fréquentielles, universelles et collectives du champ. En fait, rien ne nous appartient, mais cela va constituer une conscience individuelle miroir en laquelle le champ de conscience va se projeter, se mirer, se révéler, se donner forme.
Autrement dit, Jordan, le champ de conscience est l'émetteur.
Alors, c'est l'émetteur avec des strates fréquentielles différentes et il y a des mémoires qui appartiennent à toutes les créatures, qu'elles soient humaines ou non, tout le vivant, on pourrait dire, tout ce qui a expérimenté le vivant, que ce soit potentiel ou que c'est déjà existé. Et ces informations, elles retournent au champ et tout ce qui n'est pas de l'ordre de la conscience, tout ce qui n'a pas été conscientisé, on pourrait dire, est redispersé dans le champ et va permettre de refaire des amalgames pour des êtres nouveaux qui naissent. Voilà. Nous sommes la totalité du processus, même si le miroir individuel est voilé par l'identification au moi de surface et nous fait croire le contraire. Je rappelle qu'au retour, après cette déstructuration et cette restructuration, j'étais la même et pas la même. Mes cheveux noirs corbeaux étaient plus clairs, avec des reflets roux. Ils étaient raides, ils sont devenus souples. Mes yeux étaient noirs, ils ont éclairci et sont marrons. Ma peau surtout, qui était très mate, un peu comme une peau d'indienne, est devenue très fine, très blanche et j'étais photosensible. Tout cela en 10-12 heures de coma. On sait, d'après les études sur les NDE, que des expérienceurs sont revenus en parlant d'autres langues. Un plombier est revenu avec des formules mathématiques que des universitaires ont peiné à décoder. Certains même sont revenus avec un autre groupe sanguin et d'autres encore avec de nouvelles empreintes digitales. C'est quand même extraordinaire. La personne qui est revenue avec une nouvelle identité, un nouveau nom, Jordan, que j'ai officialisé à l'état civil, se reconnaissait dans ce noyau de lettres identiques, mais avec une enveloppe de configuration informationnelle différente. Je savais que s'était intégré en moi un nouveau champ de connaissances, que j'ai appelé la Kabbalah, ou plutôt que quelque chose avait réactualisé cette très, très ancienne connaissance dont Marie-Hélène avait gardé une vague intuition, mais sa configuration d'alors ne pouvait pas vraiment la conscientiser. Sous la forme de Jordan, je percevais bien ce nouveau champ de conscience, mais j'étais incapable, alors que ça m'habitait, de le formuler avec le langage d'en bas. Cette connaissance était comme un rêve. Quand on se réveille le matin, on en ramène des images, des perceptions, une atmosphère intérieure, un état de conscience, on est habité par ça, mais on ne sait pas comment le raconter. On est connecté à quelque chose de plus vaste, on continue même à vivre enveloppé par cette vastitude, mais les mots, le langage d'ici, ne se frayent pas le chemin. Les mots du moi de surface réduisent tout et déforment tout. Il était pourtant impératif au retour que je me consacre à explorer, intelliger, formuler, nommer ce que j'avais vécu, et par l'étude et de longues méditations, le ramener de ce côté. Du côté de la conscience humaine, si je puis dire, mais comment m'y prendre? Et l'appel, le désir était si fort en moi que là est intervenue la magie de la vie. Bancal et assez perturbé, je reprenais du service dans ma librairie, avec au fond de moi ce besoin impérieux de commencer ma nouvelle quête. Je discute avec un client et ami, Pierre, qui est passé de l'autre côté du miroir, et sans parler de la teneur des EMI, je lui dis qu'au sortir des comas, me restaient ces mots comme imprimés en moi, mais quand il ne reste rien, que reste-t-il? Il est surpris, il me dit « mais cette phrase, je l'ai déjà entendue dans la bouche de quelqu'un d'autre. Connais-tu Satprem ?» me dit-il. Je lui dis non. Et le lendemain, il me porte une cassette avec l'interview de Satprem par Jacques Chancel. Oui, en 83, on avait encore des cassettes. Hein, je suis vraiment un dinosaure. Et là, la voix, l'énergie de Satprem, la présence perceptible de la mère, quel choc! Je reconnais dans mon nouvel espace de mémoire tous les mots et le parcours de cet homme. Il est le fils spirituel de la mère, Mira Alfassa, la compagne spirituelle de Sri Aurobindo. Et tout résonne, mon cœur crie, c'est ça, c'est ça. Et tout me conduit à la philosophie et à la métaphysique de Sri Aurobindo. J'y plonge, comme si j'étais en pays de connaissances à tous les sens du mot. Merci la vie. Sri Aurobindo a fait avec le sanskrit le même chemin de décodage que celui que fait la Kabbalah avec les lettres hébraïques. Un jour, dans ma librairie, je sens quelque chose d'étrange dans l'atmosphère et je vois une coulée de lumière blanche dans la rue, devant la boutique. Et dans cette coulée vibratoire, un petit homme avec des cheveux blancs. Puis plus rien, juste mon cœur qui bat très très fort. Plus tard, l'homme entre. Il dit « J'étais au bout de la rue, une force m'a appelé, je suis revenu sur mes pas. C'est la présence de la mère, elle est ici, elle est avec vous. » Je suis complètement chamboulée, je fonds en larmes, je sens des forces de jonction, d'une puissance incroyable, la présence de mère qui nous unit, et quelque chose en moi a la certitude de la guidance de la mère depuis le champ. Et elle confirme ma quête. Cet homme était professeur de mathématiques à Auroville, à Pondichéry, en Inde. Donc il voyait mère tous les jours, jusqu'à son décès. Auroville était l'ashram et le centre créé par mère et Sri Aurobindo. Mon cœur a failli exploser. Merci la vie. Cependant, quelque chose en moi restait frustré de ne pouvoir explorer cette même connaissance par la Kabbalah. Les ouvrages sur le sujet ne me faisaient vraiment pas vibrer. La Kabbalah y était enfouie dans le judaïsme et je la désirais nue, libre de toute religion, dévoilée à sa source. Je voulais la Kabbalah des patriarches, des initiés, des sages, pas celle des commentaires religieux. Je l'avais entrevue dans un écrit de Carlo Suarez. Mais ces livres étaient épuisés et introuvables, et à l'époque, on n'avait pas Internet. C'était sans compter sur une nouvelle magie de la vie. Toujours dans la librairie, mon cœur se met à battre. L'atmosphère s'épaissit d'une lumière spéciale. Je lève les yeux et vois un jeune homme passer dans la rue. Juste un choc de force, un choc d'énergie, incroyable. Là aussi, une connexion puissante, guidée par du plus grand, un appel du chant. Et un instant plus tard, l'homme entre et me dit « Bizarre, j'ai dû revenir sur mes pas, quelque chose d'étrange m'a appelé à entrer ici. » Et commence une discussion de plusieurs heures, exaltante de points communs, sur nos vies, nos recherches spirituelles. Je lui parle de mon désir de Kabbalah. Une semaine après, je reçois un colis sur mon bureau avec tous les livres épuisés de Carlo Suarez. Luc, que je salue, à Tahiti, avait parlé de moi à un ami qui avait ressenti au fond de lui qui j'étais et avec une totale confiance, il me prêtait tous les livres de sa bibliothèque. Merci la vie. Voilà comment j'ai pu plonger dans Sri Aurobindo et son travail de décodage à partir des textes initiatiques des Rishi Veda et en parallèle mon travail sur le code Kabbalah depuis la source des patriarches. Il ne fait aucun doute pour moi que cette connaissance multimillénaire interprétée par deux cultures différentes à la même source de conscience, celle de l'océan de lumière, exprimant la volonté d'être décodée, révélée, nommée. Cette supralumière s'offre à nos consciences miroirs pour s'y mirer et jouir de s'y voir révélée.
L'homme supralumineux.
Voilà.
Régis Dutheil.
C'est ça.
Merci beaucoup.
Merci Jordan. Patrick.